Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Au cours des derniers mois, la Turquie a multiplié les provocations envers l'Union européenne. Elle a ouvert sa frontière avec la Grèce aux réfugiés qui cherchaient à entrer en Europe. Elle a harcelé des frégates européennes qui, dans le cadre de l'OTAN et de l'Union européenne, contrôlaient l'embargo sur le trafic d'armes à destination de la Libye. Enfin, récemment, elle a dépêché un navire de prospection dans les eaux grecques de la mer Égée. L'Union européenne, de son côté, réaffirme d'une seule voix ses principes de solidarité au sein des 27 et sa volonté de faciliter un dialogue entre la Grèce et la Turquie. Mais que veut et surtout que peut le président turc Recep Tayyip Erdogan lancer dans une surenchère nationaliste qui masque difficilement ses difficultés intérieures? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Didier Billon.
Bonjour.
Vous êtes le directeur adjoint de l'IRIS et l'IRIS c'est bien évidemment l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques et vous êtes un grand connaisseur de la Turquie et de la Méditerranée orientale au sens un peu plus large. Ahmet İnsel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, éditeur et politologue turc. Votre dernier livre, La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire, est paru récemment aux éditions de La Découverte. Et à Istanbul, nous rejoignons Sinan Ülgen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du think tank EDAM. EDAM, comment on traduit ces lettres en turc? Ça veut dire quoi, EDAM?
En titre, d'abord, c'est Économie des Dishes Politica Araştırmalar Merkezi, et ça se traduit en tant que centre des études pour l'économie et la politique étrangère.
Et au cours de cette émission, bien sûr, nous ferons un détour, comme chaque semaine, par la rédaction de Courrier International avec Sacha Mitchell ce dimanche. Alors Didier Billon, la vie de tempête sur la Méditerranée orientale est un peu retombée depuis que le navire de recherche turc, l'Oruç Reis, et qui opérait dans la zone maritime grecque, est retourné au port d'Antalya. Alors pour la compréhension de nos éditeurs, il nous faut faire peut-être un peu de géographie, un peu d'histoire. C'est pas toujours facile la géographie quand on n'a pas les cartes en radio, mais tout de même, il y a des îles grecques qui sont très très proches des côtes turques.
Oui, c'est une très bonne entrée en matière de commencer par la géographie. On pourra dire un mot de l'histoire brièvement parce que l'histoire est compliquée dans cette région du monde. En tout cas en termes de géographie, mais peut-être nos auditeurs se précipiteront-ils
sur
vers
une
les
carte.
Il est frappant de constater qu'il y a plusieurs centaines d'îles ou d'îlots qui sont grecs, des droits, en mer Égée et sur les côtes sud de la Turquie. Or, il y a là un problème de définition du droit maritime international. Car si on applique mécaniquement le droit maritime international, alors chaque entité ilienne, qui dépend d'un pays, en l'occurrence la Grèce, pourrait revendiquer 12 000 marins à partir de la côte de l'île. 12 000 marins, en gros, ça fait 23 kilomètres.
Et certaines îles sont à moins de 23 kilomètres des côtes turques.
Ah bah pour le moins, oui, puisque alors il y a la fameuse île de Castelorizo, selon le nom qu'utilisent les Grecs, et qui est une île de droit grec, qui se trouve à 2 kilomètres des côtes de Turquie, alors qu'elle se trouve à 570 kilomètres des côtes grecques. Et facteur aggravant, mais ça illustre le propos, cette île fait à peu près 10 kilomètres carrés de surface, et sa juridiction maritime serait de 40 000 kilomètres carrés si le droit maritime international était appliqué. Donc il y a un litige très ancien entre les Grecs et les Turcs, entre l'État grec et l'État turc, sur la délimitation des eaux territoriales. Et j'insiste sur le fait que ce problème est ancien, plusieurs décennies, puisque ces îles ont un statut qui dépend, et je vais aller très vite, du traité de Lausanne,
1923,
du traité de Paris, qu'on oublie souvent, 1947, puisqu'une partie des îles du Dodécanèse appartenait aux Italiens jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc tout cela montre qu'il y a une difficulté à la fois d'ordre juridique et bien sûr surtout politique. Dernière chose dans ce panorama, mais très général et très schématique, vous me le pardonnerez, c'est la question du droit maritime international, puisqu'il y a une convention internationale dite convention de Montego Bay, qui a été signée en 1982, et qui donc régit théoriquement le droit maritime international, mais cette convention n'a pas été signée par la Turquie. Donc, en droit international, sur ce sujet comme sur les autres, on ne peut pas imposer mécaniquement à un pays une convention qu'il n'a pas lui-même signé. Donc vous voyez, le problème est compliqué et dernier mot, il a été aggravé ces dernières années par le fait qu'il y a eu découverte de gisements gaziers en Méditerranée orientale. Chacun comprend aisément que cela aiguise les intérêts des uns et des autres.
Alors, comme vous venez de le dire, Didier Billon, dans cette partie de la Méditerranée orientale, il y a l'espoir de trouver du pétrole, mais surtout du gaz, hein, d'où l'envoi par le président Erdogan d'un navire de prospection protégé donc par des navires de combat turcs. Alors là, pour le coup, au mépris des règles internationales, ou pas?
Le problème est le suivant, de mon point de vue, c'est que on peut critiquer les méthodes utilisées par le président Erdogan et la Turquie, mais s'il n'y avait pas eu ce que vous avez appelé tout à l'heure une provocation, pour moi un terme qui est un peu déplacé, mais enfin il est discutable en tout cas, les Grecs notamment auraient pu continuer à prospecter, ainsi que les Chypriotes grecs, sans demander leur avis aux Turcs. Et ça, ce n'est pas acceptable par la Turquie. Donc moi, je fais toujours une différence dans les moments de tension que nous venons de traverser, même si il semble que depuis quelques jours, depuis au moins 48 heures, il y a un apaisement réel. Soyons prudents, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais néanmoins...
Et un navire qui rentre au port ne fait pas la fin d'une crise.
Non, plus l'entretien téléphonique entre Erdogan et Macron, plus la déclaration publique des autorités grecques et turques qu'elles étaient prêtes à s'engager dans un processus de négociation. Donc tout cela, pour moi, va dans le bon sens, restons prudents, mais nous sommes dans une période beaucoup moins tendue que celle qui prévalait il y a encore 2 semaines, incontestablement. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a le fond et la forme. La forme, c'est les déclarations parfois très guerrières, très belliqueuses, très agressives du président Erdogan. Là, c'est sûrement critiquable. Mais sur le fond, je suis de ceux qui considèrent que la Turquie a quelques raisons de poser des revendications, parce que ça nous ramène à ce qu'on évoquait précédemment, à la géographie très spécifique des îles grecques et de la Méditerranée orientale, qui me font penser qu'il va falloir négocier pour aboutir non pas à l'application mécanique du droit maritime international, mais à une application spécifique, comme cela existe dans bien d'autres endroits dans le monde, et je ne prendrai qu'un exemple, c'est les îles anglo-normandes. Autour des îles anglo-normandes, qui sont à quelques encablures des côtes du Cotentin, en Normandie.
En France, donc.
En France. Donc, il n'y a pas une application mécanique du droit maritime international. Et pourtant, la France et la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, ont signé la convention de Montego Bay.
Ahmet Tinsel, ce n'est pas la première fois que la Turquie, s'invite dans l'espace grec, qu'il soit maritime ou aérien.
Oui, ce n'est pas la première fois. Surtout dans l'espace aérien, c'est très très courant, puisque les avions de chasse turcs, selon la définition grecque de l'espace aérien, viole quasi quotidiennement depuis quelque temps encore plus l'espace aérien grec selon les réclamations de la Grèce. L'espace aérien est encore plus compliqué que l'espace maritime d'une certaine manière, mais dans l'espace maritime, maintenant, la question de la zone économique exclusive est devenue encore plus aiguë que la définition des frontières maritimes, si vous voulez. La zone économique maritime est quelque chose qui donne à peu près à 200 000 de longueur à partir des côtes du Nil, une distance de 200 000, c'est très long. Et effectivement, si on appliquait mécaniquement, comme a dit Didier Billon, ces zones économiques maritimes aux îles grecques de Dodécanèse et de l'Égée du Nord, dans ce cas-là, la Turquie dispose quasiment aucune zone économique exclusive, sauf peut-être un petit triangle à partir du port d'Antalya et encore. Et là, il y a effectivement une situation qui s'est envenimée avec les explorations gazières. Alors que du côté de la mer Égée, les sous-sols marins ne semblent pas être très très prometteurs pour l'exploration gazière, alors que du côté des côtes chypriotes, qui est un autre grand problème que nous viendrons probablement à discuter tout à l'heure, il y a des explorations positives qui donnent des résultats positifs, et c'est ce combat sur le gaz et l'acheminement du gaz vers l'Europe et le tracé de cet acheminement qui a envenimé les choses, alors que entre la Turquie et la Grèce, il y a régulièrement des petits problèmes. Il reste une dizaine d'îlots que la Turquie et la Grèce se battent, ne sont pas, dont le statut juridique, selon la Turquie, reste indéfini et selon la Grèce, reste bien défini comme territoire grec.
Alors on commence à y voir un petit peu plus clair que peut-être que le problème est un peu plus complexe qu'on le lit et qu'on l'entend parfois. Sinan Ülgen, vous n'êtes pas le porte-parole de Recep Tayyip Erdogan, bien évidemment, mais comment les choses sont présentées du côté turc à Istanbul ou à Ankara ?
Tout d'abord, effectivement, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Ceci dit, je sais bien qu'il faut aussi apporter une certaine perspective à cette discussion. Dès lors qu'on a commencé cette discussion avec un énoncé que je vois très fréquemment en Europe, que c'est essentiellement la Turquie qui viole l'espace maritime grec. Alors, pour se dire, et c'est là un peu la position officielle d'Ankara aussi, pour se dire, il faut d'abord accepter ou se faire valoir que l'espace maritime grec, en l'occurrence par exemple la région où le navire turc Orutris a débuté l'exploration, fait partie de l'espace maritime grec si et seulement si on accepte qu'une île comme Kastellorizo, qui est à 2 km des côtes turques, avec une population à peu près de 400 personnes, avec une activité économique peut-être non existante, génère un plateau continental et une zone économique exclusive de 40 000 km² au détriment de la Turquie, qui a la côte la plus extensive en Méditerranée.
Ce qui veut dire que, si je comprends bien Sinan Ülgen, c'est que, d'un point de vue turc, à Ankara, on dit la Turquie a des droits à faire valoir.
Absolument. Et dès lors, parce que finalement, au moins, ce que l'on peut dire au niveau international, c'est que ici, en Méditerranée orientale, il y a deux, si vous voulez, positions. L'un du gouvernement grec, l'autre du gouvernement turc, qui sont à l'antipode. Et la seule instance qui pourrait effectivement se prononcer pour dire qui a été justifié selon le droit international, c'est finalement un tribunal international. Donc la position turque, c'est de dire ici on a un différend et il y a un moyen de résoudre ces différences, et soit par le biais des négociations directes entre le gouvernement turc et le gouvernement grec, et finalement, si on ne serait pas d'accord par le biais de ces négociations, on pourrait toujours aller devant un tribunal international, mais il faut se mettre d'accord, même si on va faire ça, il faut se mettre d'accord sur la panoplie des différends entre la Turquie et la Grèce, parce que ça, ce n'est pas le seul différend. Il y a aussi d'autres différends, que ce soit les zones territoriales, que ce soit la militarisation des îles grecques qui sont en violation du traité de Lausanne, et d'autres sujets. Donc, si vous voulez, il faut d'abord avoir ces délibérations bilatérales, et si on ne se met pas d'accord, au moins, peut-être qu'on pourrait se mettre d'accord sur le statut des accords qu'on va soumettre à un tribunal international.
D'accord. Bien résumé, Sinan Ülgen. Didier Billon, quand même un petit mot sur la personnalité de Recep Tayyip Erdogan. Son parti, l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement, est un parti islamiste. Il est au pouvoir depuis 2002. Cela fait donc 18 ans. Et en 18 ans, Recep Tayyip Erdogan a beaucoup évolué. En tout cas, sa politique a beaucoup évolué. Il était très démocrate, il est arrivé aux urnes, au pouvoir démocratiquement, bien sûr, et son pouvoir est devenu de plus en plus autoritaire et de plus en plus nationaliste, Didier Billon.
Oui, c'est un fait incontestable, vous le dites, depuis plus près de 18 ans. Je crois de mémoire 14 scrutins électoraux qui ont systématiquement été gagnés par l'AKP. Donc c'est quand même un parti qui désormais est totalement enraciné dans la vie politique turque, pour le meilleur comme pour le pire. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, quand on relit les textes initiaux du programme de l'AKP ou les premières interventions et les premières mesures, les trains de réforme pro-européenne qui avaient été prises au début du mandat de l'AKP, lors de la première législature, et quand on regarde la situation des droits démocratiques, de l'état des droits en Turquie, il y a une formidable et préjudiciable régression. Alors, accentuée depuis la tentative de coup d'État de 2016, où on sait bien que des dizaines, des milliers de fonctionnaires, de journalistes, de démocrates, d'opposants, ont maille avec la justice, et pour certains d'entre eux, sont en prison. Donc là.
Alors, je ne prends justement le cas des journalistes. J'ai regardé le classement de Reporters sans frontières qui fait autorité sur la liberté de la presse dans le monde. Et sur 180 pays, la Turquie est le 154e pays qui respecte très mal, évidemment, la liberté de la presse et la liberté d'expression. La Turquie est juste entre le Bélarus, la Biélorussie et le Rwanda. Donc un voisinage tout de même
sulfureux,
on va dire ça.
Comme ça. Oui, alors ça c'est un état de fait, une situation tout à fait condamnable. Pour autant, il faut pousser un petit peu plus loin l'analyse. Qu'il y ait dérive ou stratégie liberticide du pouvoir, je crois que nul ne le conteste véritablement, sauf les partisans les plus acharnés du dit pouvoir. Pour autant, vous le savez, en France, il y a un débat, et notamment dans la presse écrite, j'ai vu des journaux, des magazines qui titraient, en parlant de Erdogan, le dictateur. 5 colonnes à la une. Je réprouve pour moi ce type d'expression, parce que cela ne rend pas compte de la complexité de celle-ci.
Pouvoir très autoritaire, vous
diriez ? Ah oui, ça c'est incontestable. Alors on peut trouver le terme de démocrature, de régime illibéral, tout cela s'applique parfaitement. Mais une dictature au sein de laquelle, lors des dernières élections municipales, il y a donc un petit peu plus d'un an, c'était au printemps 2019, les deux principales villes, c'est-à-dire Ankara et Istanbul, ont été gagnés par l'opposition, c'est quand même une drôle de dictature. Donc n'oublions jamais que dans un arrière-fond liberticide, ça c'est incontestable en tout cas de mon point de vue, eh bien il y a encore des linéaments d'expression citoyenne démocratique, notamment au moment des élections. Alors même si les dernières élections ont été entachées de fraudes électorales, oui bien sûr, et c'est tout à fait regrettable, mais il y a encore un attachement aux règles du fonctionnement formel de la démocratie. Et je considère que les citoyens turcs, pour une bonne partie d'entre eux, se saisissent de tous les moyens pour tenter de marquer leur résistance à l'état de fait que M. Erdogan veut imposer. Donc vous voyez, la situation politique n'est pas en noir et blanc, mais j'ai pris soin de rappeler que l'arrière-fond de cette situation politique est infiniment préoccupante et problématique, cela va de soi.
Ah, mais Tinsel, la base électorale de l'AKP, c'était d'abord les couches populaires, mais ça, on sent bien que ça évolue, Didier Billon l'expliquait, l'illustration, c'est les dernières élections municipales où le maire d'Istanbul et celui d'Ankara sont devenus des maires d'opposition. Néanmoins, le pouvoir reste fort ou pas tant que ça, Ahmet İnsel?
Le pouvoir en termes électoraux, si on regarde la sociologie électorale, le pouvoir reste fort, mais effectivement pas tant que ça, mais jamais le pouvoir n'a pas été très très très fort à la manière des dictatures d'Asie centrale ou Loukachenko avec 80% des suffrages favorables au président ou à son parti. En Turquie, le vote pour le parti d'Erdogan ou pour Erdogan lors des élections présidentielles n'ont pas dépassé les 50%, 52% aux dernières élections présidentielles et avec une compétition large. Mais en revanche, au jour d'aujourd'hui, on constate, c'est-à-dire depuis 3-4 ans, une usure du pouvoir, une usure de l'électorat, puisque AKP, auparavant, le parti de Tayyip Erdogan, le parti de justice et développement, arrivait à lui seul à mobiliser 48-49% des électeurs en Turquie. Lors, par exemple, en 2011, c'est le résultat de 2011, 49% de vote pour le parti d'Erdogan. Aujourd'hui, ce parti est crédité de l'ordre entre 32 et 38%, voire 40% des voix. Ce qui fait que Tayyip Erdogan, à partir de 2015, le seul élection, et là je corrige très très à la marge ce qu'a dit Didier Billon, sur les 13 élections et référendums qui ont eu lieu depuis 2002, le parti d'Erdogan a perdu une élection, la majorité parlementaire, en juin 2015. Et Tayyip Erdogan a empêché qu'il y ait eu une coalition droite-gauche et a provoqué des élections anticipées 4 mois après et a gagné la majorité parlementaire un peu avec du feu et du sang et pas mal d'actions militaires etc. Mais depuis cette date, Tayyip Erdogan, qui a voulu mettre en place un régime présidentiel, est devenu dépendant d'une majorité de 50%, parce que le régime présidentiel, l'élection présidentielle nécessite de disposer de 50%. Or, il ne dispose pas de 50%, et donc du coup, depuis 2015-2016, Tayyip Erdogan a commencé à se rapprocher de l'extrême droite nationaliste, à tel point qu'à partir de, avant les élections de présidentielles et législatives, pour pouvoir assurer une élection de lui-même et d'une majorité parlementaire, il a fait une alliance avec formel avec le parti d'extrême droite nationaliste, et donc du coup la partie nationaliste de sa politique et de son discours est devenue de plus en plus accentuée. Aujourd'hui, il est un peu pris en tenaille entre, d'un côté, une extrême droite nationaliste qui dans le là quasiment pour beaucoup de questions, jusqu'à la demande de remise de peine de mort récemment par exemple, ou l'interdiction de l'ordre des médecins, etc.
C'est un petit peu ce que vous avez expliqué à Bettine Salle dans une tribune publiée dans Le Monde très récemment, où vous expliquez que Erdogan a réussi un objectif, son objectif, créer une surenchère nationaliste.
Hein. D'un côté, une surenchère nationaliste qui lui permet d'avoir une alliance formelle avec l'extrême droite et une alliance informelle avec des branches kémalistes, des anciens généraux, des bureaucrates, etc., qui rêvent de que la mer Égée devienne une mer turque, contrairement à la thèse grecque, ou annexer le Chypre du Nord une fois pour toutes, ou s'installer définitivement au nord de Syrie, etc., etc. Et puis, là où il réussit, c'est que sur cette politique extérieure, l'opposition social-démocrate est tétanisée, est obligée de l'applaudir d'une certaine manière, malgré une opposition très forte au sein du pays. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, cette surenchère nationaliste est le dernier cartouche que dispose Tayyip Erdogan pour pouvoir freiner l'érosion de son électorat, très ébranlé par la crise économique, fatigué par le discours très violent, très agressif de Tayyip Erdogan, et une bipolarisation de la société où Tayyip Erdogan et ses supporters accusent l'opposition, le parti kurde, le parti démocratique du peuple, d'être des vendus à l'étranger, d'être des ennemis de l'intérieur. C'est pas tendre, hein, la position de Tayyip Erdogan vis-à-vis de l'opposition.
Il est vigoureux.
Et en plus, le ribambelle de personnes qui sont en prison, ne serait-ce que parce qu'ils ont émis des avis qui ne plaisent pas au pouvoir.
Ou ceux comme vous qui ont dû s'exiler à Metinsel.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, avis de tempête en Méditerranée, que veut et surtout que peut le président turc Recep Tayyip Erdogan. Nous sommes avec Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, avec Ahmet İnsel, économiste, éditeur et politologue turc. Son dernier livre, La Nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire, est paru aux éditions La Découverte, et avec Sinan Ülgen, directeur du think tank EDAM. Il est en ligne d'Istanbul. Alors, la Turquie, c'est environ 80 millions d'habitants, au 19e rang mondial pour le PIB, juste derrière les Pays-Bas. La Turquie reste une puissance moyenne, ce qui peut paraître contradictoire avec les ambitions géostratégiques de son président, qui a des envies de recréer l'Empire ottoman. Alors, avant de poursuivre notre débat, nous allons faire un petit tour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
S'il y a bien un pays qui scrute le moindre mouvement de la Turquie, c'est bien évidemment la Grèce. Pour le quotidien athénien Ikatimirini, ce qui qui veut dire quotidien en grec, ben le pays constitue une réelle menace en dehors de ses frontières.
Oui, Daniel, le journal grec commence par poser un constat. La Turquie a des ambitions énormes, démesurées même. Ces ambitions, elles s'inscrivent notamment dans la doctrine dite de la patrie bleue, avec la tentative de mettre la main sur la Méditerranée orientale aux dépens de la Grèce. Mais ce n'est pas tout, ce n'est que le début même. L'objectif final d'Erdogan, c'est de contrôler une route commerciale essentielle, celle qui relie l'océan Indien à la Méditerranée, c'est-à-dire l'Asie à l'Europe, et ce, via le canal de Suez et l'Afrique du Nord. Pour le journal conservateur, la présence de la Turquie en Libye, ainsi que sa grande base militaire en Somalie, vont d'ailleurs dans le sens de cette ambition.
Mais le journal grec explique aussi que c'est un peu peine perdue.
Absolument. I. Kathimerini l'assure, la Turquie n'a aucunement les moyens de ses ambitions. D'abord, son économie est assez faible, moins importante que celle des Pays-Bas, et sa monnaie, la lire, a perdu 20% de sa valeur cette année. Avec la contre-réforme qu'il a menée en 2013, Erdogan a aussi fait en sorte que la Turquie reste un État corrompu, clientéliste et dominé par ses amis, souligne le journal conservateur. Enfin, une bonne partie des cerveaux du pays ont émigré en Occident pour échapper à l'oppression des islamistes. Mais pour autant, la Turquie reste un problème de long terme, selon I. Kathimerini. Afin de répondre à la menace, il faut donc une réponse pleine de détermination, mais surtout une stratégie internationale. Une stratégie d'ailleurs intelligente et ciblée, un peu à la manière de celle employée par les États-Unis pour endiguer l'expansion de l'URSS. Pour dire les choses de manière à être mieux compris par Washington, explique le journal, la Turquie se comporte au mieux comme le Pakistan, au pire comme l'Iran dans sa volonté d'établir une hégémonie au Moyen-Orient. En résumé, selon I. Kathimerini, le pays sous Erdogan est une force anti-européenne et anti-occidentale. Mais l'un des avantages de cette attitude agressive est qu'elle a provoqué la naissance d'une alliance anti-turque de la France à Israël, en passant par une partie de l'échiquier politique américain. Et cette alliance, conclut le journal, la Grèce a tout intérêt à le promouvoir.
Merci Sacha Michel, Courrier International, l'Hebdo, et bien évidemment Courrier International, le site. Alors, une situation économique qui n'est pas brillante, on l'a compris, elle s'est dégradée depuis quelque temps, et elle a empiré avec le Covid, un PIB qui a baissé de 10%, une livre turque qui se déprécie d'environ 20%. La gesticulation de Recep Tayyip Erdogan, Sinan Ulgen, est-ce que c'est finalement une manœuvre de diversion pour faire un peu oublier les difficultés sur le plan intérieur?
Je pense qu'il faut être nuancé à ce sujet, parce que c'est partiellement vrai, mais partiellement il y a d'autres dynamiques qui ont poussé le président turc vers ces manœuvres-là. Mais je pense qu'il y a un autre élément de réflexion ici, parce que finalement, les Turcs considèrent ce sujet comme un sujet lié à la souveraineté nationale de la Turquie.
J'entends bien, mais est-ce que finalement, la Turquie a les moyens de son ambition? Ou finalement, un petit peu à l'image de la Russie, est-ce que le seul pouvoir de la Turquie est finalement un pouvoir de nuisance?
Non, pas du tout, parce que il faut bien définir les ambitions de la Turquie. Et là, je suis un peu, je vais me porter bien sûr à faux de ce qu'on vient d'entendre par le biais du journal grec, parce que là, il y a une interprétation un peu erronée de ce que la Turquie souhaite faire, dans la mesure où il faut, et là, les comparaisons avec les régimes comme l'Iran et la Russie ne sont pas bien fondées. À cause de l'économie politique de la Turquie. La Turquie est un pays qui est l'allié de l'OTAN. Bien sûr, il y a des problèmes. Mais la Turquie continue à être intéressée par une adhésion à l'Europe, à l'Union européenne. Et finalement, ce qui importe le plus pour pouvoir percevoir, si vous voulez, le futur de la Turquie, c'est de constater que la Turquie a besoin des bonnes relations avec l'Europe, avec l'Occident, parce que finalement, c'est une économie qui est ouverte sur le monde. C'est une économie qui fait partie de la globalisation, qui est une économie qui a besoin de ses relations, d'investissement et de commerce.
Une économie très exportatrice et qui a besoin de l'investissement étranger, bien sûr.
Tout à fait. Donc, c'est pas une économie qui repose sur des ressources d'hydrocarbures comme la Russie et l'Iran. Et c'est là l'obstacle principal pour un délit plus autoritaire. Parce que la Turquie doit finalement, ça sera soit Erdogan ou un autre président, je ne sais pas, mais la Turquie doit retourner à un régime d'état de droit, à une démocratie plus pleine et avoir des relations beaucoup plus stables avec ses partenaires avec ses... traditionnels qui sont ses partenaires de l'OTAN et d'Europe.
Didier Billon, le moins qu'on puisse dire, c'est que la Turquie est très isolée sur le plan international. On va faire un petit tour des voisins de la Turquie. Elle ne s'entend guère avec aucun de ses voisins, ou en tout cas pas si bien que ça. La Grèce, bah, par définition. La Bulgarie, pas vraiment. La Russie, un peu. Mais c'est assez conjoncturel, hein, puisque la Turquie a commandé des missiles russes, ce qui pose d'ailleurs encore un nouveau problème au sein de l'OTAN. On laisse de côté l'Arménie, où évidemment la situation est mauvaise. La Géorgie, je crois que c'est pas trop mal, hein, y a pas grand-chose à dire. L'Iran, il y a deux volontés hégémoniques régionales qui s'affrontent, hein, l'Iran d'un côté et la Turquie, donc relation pas extraordinaire, hein, Didier Billon, je parle sous votre contrôle. Et puis l'Irak et la Syrie, où là encore, ça pourrait être mieux, hein, on peut mieux faire.
Non, mais il est clair que si on se reporte quelques années en arrière, vous vous rappelez probablement tous que M. Davutoğlu, à l'époque où il était ministre des Affaires étrangères, disait « zéro problème avec nos voisins », c'était le mot d'ordre. Les mauvaises langues disent aujourd'hui « zéro voisin sans problème ». C'est une boutade, bien évidemment, mais moi je rappelle quand même toujours à mes chers étudiants que d'avoir comme voisins l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Géorgie, bon, et quelques autres, c'est plus compliqué
qu'avoir l'Allemagne, la Suisse et l'Italie.
La Belgique, l'Italie ou l'Espagne. Donc là, il y a objectivement une difficulté. Nous sommes un peu dans la zone des tempêtes. La Turquie est dans la zone des tempêtes. Malheureusement, et j'espère que à terme, nous arriverons à stabiliser ces régions du Caucase et du Moyen-Orient tout particulièrement. Alors la question qui se pose, c'est de savoir, vous l'aviez évoqué précédemment, il y a une volonté de reconstituer l'Empire ottoman. C'est la fameuse thèse du néo-ottomanisme. Moi, je m'inscris en faux contre ce concept parce que je crois que déjà, il faut comparer les choses comparables. Un empire, quel qu'il soit, et l'Empire ottoman n'a pas fait exception, eh bien, un empire, il est toujours expansionniste, par définition, structurellement. Un empire doit s'étendre constamment, sinon il régresse et il se casse la figure. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec l'Empire ottoman. Mais est-ce que la République de Turquie, depuis sa création, et y compris depuis une petite vingtaine d'années avec avec Monsieur Erdogan, a-t-il une volonté expansionniste? Je ne crois pas. Qui est une volonté d'influence régionale au Moyen-Orient, au Caucase et plus loin, c'est une certitude. Vous l'avez rappelé, c'est la 19e économie mondiale. Donc désormais, la Turquie, que cela nous plaise ou pas, résonne à 360 degrés. Il est évident qu'elle a la volonté de mettre en œuvre une politique d'influence. J'entends et je sais bien que M. Erdogan prononce régulièrement, ce qui est très déplaisant, des discours au sein duquel il veut remettre en cause les traités internationaux, entre autres celui de Lausanne, qu'il considère que ça a été une trahison à ce qui est assez nouveau dans le discours politique turc. Donc, c'est très désagréable, mais entre les discours très belliqueux, très guerriers de M. Erdogan, et qui sont condamnables de ce point de vue, et la dure réalité des initiatives diplomatiques de la Turquie, il y a un pas, et tant mieux.
Vous êtes en train de dire que finalement, la Turquie n'a pas les moyens de son ambition.
Ah, mais clairement, la Turquie, il y a 10 ans, pensait pouvoir devenir le leader au Moyen-Orient, c'était clair et net. C'était l'objectif. Et puis, il y a eu les révoltes arabes à partir de 2010-2011. Et cet espoir qui avait été fondé par certains dirigeants turcs, il s'est écroulé. Donc, la Turquie aujourd'hui est un élément, un pays incontournable dans la région. Pour autant, la Turquie ne viendra, au moins dans le moyen terme, ne deviendra pas le leader. Déjà parce qu'elle n'en a pas les moyens, exactement. Et puis, par ailleurs, ça ne vous a pas échappé, il y a quelques concurrents. L'Égypte, même si l'Égypte aujourd'hui est dans une mauvaise situation, l'Arabie Saoudite et bien sûr l'Iran, même si l'économie iranienne est aujourd'hui à bout de souffle, l'Iran restera un grand pays. Donc là, il y aura une logique concurrentielle avec l'Iran, entre la Turquie et l'Iran, dans les 10-15 ans à venir. Ce sont les deux puissances qui, à mon avis, s'imposeront, mais qui seront en concurrence au Caucase, en Asie centrale, au Moyen-Orient notamment.
Alors, face à la Turquie et aux propos belliqueux de son président, les Européens sont restés unis. On a toujours tendance à sous-estimer la position européenne. Il devait y avoir un Conseil européen pour prendre notamment une décision, voire des sanctions contre la Turquie. Ça, il devait se dérouler il y a deux jours. Et puis pour cause de contamination Covid de son président Charles Michel, il a été reporté début octobre. L'Union européenne ne s'est pas départie de son unité. Un parallèle à mettre en évidence avec le Brexit, les Britanniques aussi ont sous-estimé la position européenne, avec un partage des rôles. Pendant que l'Allemagne promeut un dialogue gréco-turc, la France, elle, vend des rafales à la Grèce. C'est un peu le bad cop et le good cop, le gentil flic et le mauvais flic. Emmanuel Macron, il y a quelques jours, à propos des relations entre la France, l'Union européenne et la Turquie.
Nous, Européens, sommes prêts au dialogue, à la construction indispensable d'une Pax Mediterranea, mais pas au prix de l'intimidation. Pas au prix de la logique du plus fort, dans le respect du droit international, de la coopération et du respect entre alliés. Ces principes sont non négociables.
Ahmed Insel, cette fermeté d'Emmanuel Macron, et à travers Emmanuel Macron, la fermeté des Européens, est-ce que, selon vous, elle a surpris un peu la Turquie et le président Recep Tayyip Erdogan?
Oui, effectivement, c'est la première fois que l'Union européenne a un comportement aussi radical vis-à-vis l'Union européenne, excusez-moi, la France, un pays membre de l'Union européenne, a un comportement radical. Dans le souvenir de la Turquie, une situation similaire, c'était après 1974, quand l'armée turque a fait une deuxième opération militaire en Chypre et occupé 33% le nord de Chypre. Il y a eu effectivement un levée de bouclier très important des puissances occidentales et un embargo, etc., etc. Et depuis, il n'y avait pas eu de position aussi forte d'un pays allié de la Turquie, a priori, avec Emmanuel Macron. Alors, ça lui a surpris, évidemment, mais je pense que ça l'a avantagé aussi au niveau de la politique intérieure. Parce que avoir un président d'un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU et qui fait des menaces, mais qui en même temps reste simplement au niveau de verbal, et ce qui lui permet à Tayyip Erdogan de répondre du tac au tac de même niveau et avec les mêmes, même peut-être avec une expression encore plus violente, ça lui permettait de montrer qu'il est il est capable de tenir tête aux grands de ce monde. Ce qui est la différence avec l'Allemagne, c'est que l'Allemagne a tenu toujours à garder la porte du dialogue. Et peut-être, effectivement, il y a eu un jeu de rôle entre carotte et le bâton. Hein, le bâton d'un côté, carotte du côté de l'Allemagne, c'est-à-dire négociation, etc. Mais nous ne savons pas ce que l'Europe a de concrètement, n'a pas grand-chose à proposer à satisfaire les demandes de Tayyip Erdogan. Mais la porte de dialogue. N'oublions pas que Tayyip Erdogan est un leader qu'il ne faut pas comparer avec Poutine, Xi Jinping, ça lui gonfle les chevilles et ça lui monte les chevilles encore plus, mais c'est un leader populiste autoritaire, c'est un régime autocratique au sens propre du terme, c'est un autocrate aujourd'hui, pas un dictateur mais un autocrate, et en même temps cette autocratie s'alimente évidemment d'une position de défi au reste du monde, et cette position de défi au reste du monde lui permet de consolider sa politique intérieure, et en même temps ça lui permet de raccrocher effectivement ce que disait Sinan Ülgen, les secteurs ultranationalistes de l'État, des généraux en retraite, des bureaucrates a priori laïcs, kémalistes, etc., une population nationaliste, très nationaliste. N'oublions pas que dans cette discussion, dans ce rapport de force, Tayyip Erdogan recule devant le rapport de force, ça on l'a vu. Quand la Turquie a abattu un avion de chasse russe, la manière dont réagit Poutine a fait reculer la Turquie énormément. Ou quand l'aviation russe a bombardé les positions turques, a tué une 30 ou 40 soldats turcs malheureusement en Syrie, la Turquie n'a rien fait. Ou quand Trump menace d'écraser, de pulvériser briser l'économie turque s'il ne libère pas le pasteur Branson qui est arrêté en Turquie, incarcéré en Turquie avec des accusations invraisemblables. Eh bien, quelques mois après, le pasteur Branson a été libéré.
En ce sens, la promesse de vente de Rafale à la Grèce est une façon de taper du poing sur la table.
Je vais vous ajouter là-dessus. Vous savez que c'est une vieille tradition de l'armée turque, de la position de l'armée turque, c'est de pousser la Grèce de faire de ultra militarisation des dépenses d'armement, et parce que l'écart entre l'armée turque et l'armée grecque est incommensurablement grande, et donc du coup la stratégie ancienne de l'état-major turc, d'après ce que j'avais appris dans les années 90, c'est de rendre l'économie grecque affaiblie par un armement excessif. Donc il peut y avoir aussi du machiavélisme de ce point de vue-là.
De chaque côté. Sinan Ünger, vous l'avez expliqué déjà précédemment, la Turquie est un pays tourné intégré dans la mondialisation, elle a besoin d'investissements et de technologies étrangères, et pour ça les investisseurs, ils ont besoin d'un climat apaisé, mais Ankara a-t-elle envie d'un compromis, alors qu'elle développe une politique de surenchère nationaliste, anti-européenne, anti-occidentale? Il y a une contradiction entre les propos et l'attitude de l'État turc, du gouvernement turc, et puis ses besoins fondamentaux.
Oui, tout à fait. Il y a une contradiction non pas au niveau international, mais une contradiction au niveau domestique aussi. Parce que finalement, même avec tous ses défauts, et là je vais me rallier à M. Lyon, même avec tous ses défauts, la Turquie reste un système où, par le biais des élections, on peut avoir un changement de pouvoir. On l'a vu d'ailleurs aux élections municipales l'année dernière, avec les grandes villes turques passant de l'AKP au CHP, à l'opposition. Et dès lors, le gouvernement devrait finalement, pour pouvoir demeurer populaire, il va devoir démontrer une performance économique suffisante pour consolider son vote.
Mais pour ça, il faut établir un climat de confiance avec l'Union européenne, qui est le principal destinataire des exportations turques, qui est aussi le pourvoyeur des investissements étrangers. Il faut créer un climat de confiance. Or, est-ce que aujourd'hui, on peut avoir confiance dans la Turquie de Recep Tayyip Erdogan? Lorsqu'on est un investisseur, par exemple, Volkswagen avait un projet d'investissement important en Turquie, il y a renoncé.
Oui, mais c'est là le dilemme du gouvernement. C'est ce que j'essaie aussi d'expliquer par la caractéristique de l'économie politique en Turquie, qui est très différente de celui des régimes comme en Russie et l'Iran. C'est là le dilemme du gouvernement turc. C'est-à-dire que pour pouvoir continuer à être populaire au niveau domestique, le gouvernement a besoin d'une rationalisation de sa politique économique qui est liée à la consolidation des normes démocratiques en Turquie. Et tant que ceci n'est pas fait, le gouvernement va continuer à manquer de soutien. C'est ce qu'a soulevé d'ailleurs le professeur Insel. C'est le cas aujourd'hui en Turquie. Le gouvernement, l'AKP, Erdogan, devient de moins en moins populaire à cause de cette dérive économique.
Ce que vous êtes en train de dire, Sinan Ünger, c'est que le président turc risque d'être pris à son propre piège. C'est un peu ce que vous êtes en train d'expliquer. Enfin, en tout cas, il y a un risque.
Oui, il y a un risque là, parce que finalement, la Turquie est un pays à 90 millions de population, avec une jeune population. Il y a beaucoup d'espoir économique et les gens souhaitent améliorer leur niveau de vie, comme dans toute démocratie. Et si le gouvernement est vu comme un obstacle à ce type d'objectif, les élections vont devenir beaucoup moins certaines pour la partie.
Didier Bignon, on se rapproche du terme de cette émission et je sens que vous allez avoir le mot de la fin. Il faut rappeler un certain nombre de choses, les rapports ambigus de l'Union européenne à l'égard de la Turquie. La Turquie est toujours candidate à l'intégration, à rejoindre l'Union européenne. Alors on sait évidemment que les discussions sont au point mort. Il y a une ambiguïté de chaque côté. La Turquie menace d'ouvrir ses frontières aux migrants. Ils sont très nombreux malgré les 5 milliards de financement de l'Union européenne pour les maintenir dans des camps, et en tout cas en Turquie. Il y a cette ambivalence de l'Union européenne qui n'a pas dire, ben voilà, là, vous ne rentrerez pas dans l'Union européenne, vous ne rentrerez jamais. Les négociations officiellement peuvent toujours se poursuivre, mais elles sont dans une impasse totale. Il y a quelque chose qui n'est pas non plus du côté de l'Union européenne.
Non, c'est clair et net. Et tout à l'heure, vous évoquiez l'unité de l'Europe dans la gestion de la crise en Méditerranée orientale qui nous réunit aujourd'hui. J'ai, pour ma part, un point de vue beaucoup plus nuancé. Et je ne crois pas que les différences entre l'Allemagne et la France, entre Berlin et Paris, soient uniquement la répartition des jeux de rôle entre le bad cop et le good cop. Je pense qu'il y a une véritable différence d'approche qui renvoie au fait que l'Allemagne désormais a décidé de prendre toute sa place dans le jeu des relations internationales, ce qui n'était pas le cas jusqu'à un passé récent. C'est un rapport singulier avec la Turquie qui s'explique entre autres, pas uniquement, mais entre autres par le fait qu'il y a 3 millions de germano-turcs ou de citoyens turcs d'origine de citoyens allemands d'origine turque. Donc tout cela, évidemment, modifie un peu les choses. Et puis, Madame Merkel considère que c'est plus la négociation qui doit l'emporter, et elle s'oppose souvent à Monsieur Macron, qui lui a tendance à considérer que la France peut décider toute seule de telle ou telle initiative. Donc,
mais dans le cas du MED7, la réunion d'Ajaccio, eh bien, il y avait quand même un soutien européen, en tout cas de tous les pays de l'Union européenne méditerranéen.
Oui, mais c'est vrai quand il s'agit
du reste de l'Europe.
Je suis d'accord avec vous quand il s'agit de réitérer des principes généraux et justes d'ailleurs. Là, il y a unité. Mais rappelez-vous, par exemple, précisément le 14 août, Conseil européen des ministres des Affaires étrangères, la France propose des sanctions, le vote de sanctions contre la Turquie. Eh bien, il y a 6 pays, l'Espagne, l'Italie, la Hongrie, l'Allemagne, la Bulgarie et Malte, qui refusent. Or, les sanctions, elles doivent être votées unanimement.
Est-ce que ça serait le cas encore aujourd'hui ?
Alors, c'est là la question. Je ne le sais pas. Je ne le sais vraiment pas. Mais je pense que, de toute façon, il ne faut surtout pas que des sanctions soient votées contre la Turquie. Parce qu'alors, la situation très ambiguë, mi-chèvre, mi-chou, qui est dans le clair-obscur, et plutôt obscur d'ailleurs, entre l'Union européenne et la Turquie. Vous avez raison, l'Union européenne a aussi sa part de responsabilité. Il faut modifier cette situation.
Dire que l'Union européenne dise « Non, vous n'entrerez pas dans l'Union européenne ».
Je crois que le plus important, c'est pas de dire oui ou non. De toute façon, aujourd'hui, c'est plus du tout à l'ordre du jour. Le plus important, c'est qu'il y ait des projets communs qui soient susceptibles de raccommoder les morceaux, de se doter d'objectifs, oui, que l'Union européenne et la Turquie pourraient avoir dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de tel ou tel développement économique, que sais-je encore, on va pas en discuter maintenant. Mais c'est ça qui est nécessaire, parce que Sinan Ünyen, tout à l'heure, évoquait une chose qui me paraît essentielle. Il disait, le projet européen n'a pas disparu en Turquie. Et ça, tous les sondages d'opinion ou les études universitaires le démontrent. Évidemment, il n'y a plus le même enthousiasme qu'au moment de l'ouverture des négociations, c'est évident, mais il y a toujours un tropisme pro-européen. Donc il ne faut pas sous-estimer cet aspect des choses. Et je pense que la pire des choses serait d'avoir une attitude de mépris, de condescendance à l'égard de la Turquie. Et personnellement, moi je suis les relations turco-européennes depuis maintenant très très longtemps, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est retombé à l'époque de Sarkozy, c'est-à-dire au moment où les rapports entre l'Union européenne et la France donc étaient les plus mauvais avec la Turquie. Quel intérêt y avons-nous ? Donc il ne faut pas transiger sur un certain nombre de principes de fonctionnement de l'Union européenne. Ça, c'est évident. Donc il ne s'agit pas de se mettre à genoux devant les exigences de M. Erdogan. Mais il faut tout faire, et c'est fondamental, pour éviter de couper les ponts. Nous avons besoin de la Turquie aussi. Il faut le poser en ces termes. Et la Turquie a besoin de nous. Et si nous coupons totalement avec la Turquie, vers qui ira-t-elle ? Vers la Russie ? Vers la Chine ? Y a-t-on, nous, Européens, intérêt ? Évidemment non.
Metincel, Sinan Ünyen, merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Guillaume Munier, avec Sacha Mitchell du Courrier International. Sur la page de l'émission Des Infos, sur nos invités, pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous les autres, vous pouvez vous abonner au podcast de Carrefour de l'Europe via le site RFI.fr. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, que vous soyez à Paris, Istanbul, Ankara, Athènes d'ailleurs, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.